vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, sur Radio B FM 90, la radio des bonnes ondes, pour son émission au Café littéraire, celle du mois d'octobre 2025. Le thème « Souvenir, souvenir », parfois très douloureux, par de grands auteurs comme Arthur Koestler, Akira Mizubayashi, Maryse Vuillermé, Franck Bouys, Olivier Norek, Catriona O'Sullivan, Alison Espach et Lisa Garner. Alors je commence par le premier, Arthur Koestler, « La fin des illusions » par Stéphane Koechlin, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Une biographie étonnante. Géant littéraire aux millions de lecteurs, auteur visionnaire au destin de météore, Arthur Koestler fut un écrivain adulé, mais aussi haï, immense, dont la vie épousa les chaos du siècle dernier. Partisan de toutes les causes, il vit sa quête d'absolu se heurter aux grandes tragédies et son existence basculer. Devenu l'adversaire de toutes les idéologies, son engagement anti-totalitaire culmina avec la publication de son maître livre « Le zéro de l'infini ».« Le zéro et l'infini ». Un grand livre, oui, on l'avait lu il y a longtemps. Parce qu'il avait tout vu, parce qu'il avait tout dit, voici son histoire exhaustive, racontée par Stéphane Koechlin, un expert. Cet ouvrage est édité aux éditions du Cerf. Tour à tour, Arthur Koestler fut un espion communiste, parce qu'il était au départ communiste, mais après, il va changer de position quand il va voir ce qui se passe. Et militant sioniste, passé par les prisons et condamné à mort, en particulier en Espagne, où Franco va accepter de le libérer de la prison et de la mort en échange d'une femme, d'une espionne. Arthur Koestler a eu 1000 vies, que raconte Stéphane Koechlin dans cette biographie qui se lit comme un roman d'aventure, parce que vraiment il y a eu beaucoup, beaucoup d'aventures dans sa vie, et nous entraîne sur les pas d'un homme qui aura cherché toute sa vie une terre d'élection, tout d'abord en France, puis après, où il aura fréquenté de grands intellectuels, mais après, en Angleterre. Donc il a recherché un idéal politique. C'est un homme déchiré entre plusieurs langues, son hongrois natal, l'allemand qu'il connaissait mais qu'il répudiera à cause d'Hitler, l'anglais, l'hébreu fantasmé. Enfin, il est devenu un homme libre, écrasé entre les blocs totalitaires du XXe siècle, qui s'accrochera à la littérature. Il écrira plusieurs textes littéraires et déchirera le voile des illusions. Aujourd'hui, plus que jamais, la vie d'Arthur Koestler doit être racontée et sa sagesse apprise. Acquise, qu'elle fut dans les drames, les malheurs et les guerres que nous avons connues au XXe siècle, dont nous voyons le retour aujourd'hui. Un livre capital que ce Arthur Koestler, La fin des illusions, par Stéphane Koechlin, au Cerf. Et je me tourne vers le deuxième livre, un roman, un superbe roman, merveilleux roman, intitulé « La forêt des flammes et d'ombre », et c'est de Akira Mizubayashi. Il vient de paraître chez Gallimard. Akira Mizubayashi est un écrivain et universitaire japonais, mais auteur de plusieurs livres écrits en français, dans une langue superbe. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a reçu le prix des libraires en 2020 pour son roman, son premier roman, « Âme brisée », ce qui fut une révélation pour nous, libraires, qui l'avions aimé, lu, aimé et commenté avec grande joie. Avec ce nouveau roman, « La forêt de flammes et d'ombre », nous revenons à Tokyo en décembre 1944. Embauché dans un centre de tri postal, Ren Mizuki, c'est le premier personnage qui a réellement existé. Il rencontre deux autres étudiants qui partagent sa passion pour la culture et l'art européen. En 1933, il avait eu le bonheur d'aller, Ren Mizuki, en France et de voir la peinture, que ce soit au Louvre ou dans les musées. Donc, il était découvert et passionné par cette peinture européenne. Et puis, le deuxième personnage, c'est Yuki, une jeune femme qui deviendra sa compagne, peintre au elle aussi, alors que lui, c'était les Beaux-Arts, elle était plutôt une école privée. Et puis un troisième personnage, trois personnages qui vont être embauchés dans ce tripostal, c'est Bin, un violoniste promis à une carrière internationale et qui restera à jamais le frère d'élection de Ren Mizuki et puis de Yuki, parce que même s'il laissera Yuki à Rennes, il avait comme main penchant pour elle. Ayant mal à une jambe, il est claudiquant, ce Bin, mais pas au bras, puisqu'il deviendra un grand violoniste. Il partira en France, à Paris, et puis il vivra à Genève. En 1945, Ren Mizuki est appelé en Mandchourie. Oui, c'est la guerre encore, une guerre terrible et dans l'enfer des combats. Il reviendra vivant, mais défiguré et mutilé, des bras, des jambes, des mains. Il en rentre persuadé qu'il ne pourra plus jamais tenir un pinceau. Il est donc complètement abattu. Mais heureusement, l'amour de Yuki et la beauté, oui, j'insiste sur la beauté, et vous comprendrez pourquoi en lisant le livre, la beauté de Yuki vont lui permettre de renverser un destin funeste. Il deviendra créateur, malgré son handicap, créateur de 14 tableaux représentant justement la forêt de flammes et d'ombre, sa vision de cette Mandchourie terrible, en guerre. Ils auront une fille, Aya, Ren et Yuki. Pendant ce temps très douloureux, Bin n'a pas perdu son temps, puisque j'ai dit qu'il était parti en France. Il découvre et nous fait découvrir la musique, la fameuse musique européenne, et en particulier une cavatine, superbe cavatine, que vous aurez peut-être envie de découvrir vous aussi, lecteur. Et il aussi le crée à Genève un quatuor, le quatuor Luce, qui fera par son excellence école, et Aya deviendra une artiste du violon en France et puis à Genève, grâce à lui, qui l'accueillera. À travers une histoire particulièrement émouvante, Akira Mizubayashi continue d'explorer ses thèmes familiers comme le désastre des nationalismes, fauteur de guerre. Et terrible, dans ce roman, il évoque, dans ce récit, il évoque Hiroshima, bien sûr, et Nagasaki. Et l'art, il est le seul à pouvoir aussi bien parler de l'art en littérature, donc il s'exprime sur l'art, que ce soit l'art musical ou pictural, ou la poésie aussi, dans son récit passionnant, l'art qui est le recours essentiel contre la folie des hommes. À lire donc et à garder pour le relire ce très beau roman avec les 15 tableaux du peintre Ren Mizuki représentant la forêt de flammes et d'ombre, titre du livre, de la guerre en Mandchourie, et la cavatine que vous pourrez découvrir dans le quatuor à cordes numéro 13 de Ludwig van Beethoven. Et je passe à un troisième roman, un roman noir, mais aussi qui est un policier, un roman policier, voilà. Mais pas que ça. Vous verrez que c'est plutôt un roman noir, pas dans le même ton que le livre d'Akira Mizubayashi, mais c'est quand même pas mal. La Piase, ça s'appelle La Piase, qui est un lieu dit. Maryse Vuillermet, et c'est publié par le Rouergue Noir. Ce nouveau roman de Maryse Vuillermet se situe dans le majestueux décor des hauts plateaux jurassiens, vers les Rousses et au-delà des Rousses. Une tragédie biblique au temps des hippies, car dans ce livre, dans la montagne du Jura, nous sommes en 1977, donc il y avait des hippies à cette époque. Et un jeune couple de hippies s'installe dans une ferme d'estive, dans une combe reculée, le cré à la neuve. Il y a Tony, un grand gars, à son accent étrange, qui aime poser des questions pour savoir. Isabelle, dont le visage est balafré, ce sont eux les hippies. Et ils vivent donc dans la ferme au Rébier, appelée la Louvière. Leurs voisins sont un vieux ménage d'agriculteurs, les Satins, leur nom, dont un fils, Bernard, reprend l'exploitation avec son épouse qui est chasseuse de vipères à 16 heures. Et tout sépare ces paysans, des gens de peu, comme aime Maryse Vuillermet, habitués à travailler dur dans un climat austère. Et ces hippies qui veulent tirer un trait sur leur passé. Donc on parle un petit peu de ce passé des uns et des autres. Pourtant, un attrait puissant va rapprocher ces habitants, curieux les uns des autres, autant que remués dans leur certitude. Bernard avait deux frères. Noël, qui travaille en ville dans un hôpital, et revient ici tous les ans bosser à faire les foins. Donc je dis bien, nous sommes dans une ferme, la ferme des paysans. C'est un philosophe que ce Noël. Et il y a aussi Daniel, qui était parti, qui a mené une vie bizarre, très bizarre même. On suppose qu'il a fait de la prison. Il est peut-être bien le mauvais garçon de cette famille. Il y a aussi, voilà, peut-être à cause de lui, il y a comme une menace dans l'air qui est palpable, cette menace. C'est pour ça que on est intrigué. Et l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, voilà, ça vous dit quelque chose. Donc, il y aura des rivalités qui vont s'exprimer jusqu'au drame et qui expliquent pourquoi les choses vont si mal tourner, malgré le miel des abeilles pour les hippies. Dans un sublime paysage de Lapiaz, le lieu-dit, la montagne et puis la région autour, où prolifèrent les serpents, Maryse Vuillermé, née dans le Jura, qu'elle connaît si bien, orchestre un drame dont les récitants chercheront longtemps à démêler les origines. Voilà pour ce roman, La Piase de Maryse Vuillermé au Rouergue noir. Et je passe à un quatrième livre qui est aussi vraiment, moi je trouve, extraordinaire. Entre toutes, de Franck Bouys, paru chez Albin Michel. Franck Bouys que je connais depuis quelque temps. Ce roman, ce nouveau roman de Franck Bouys, est un hommage aux femmes, à des femmes simples, aux vies minuscules, aux destins bouleversants, aux maris, oui, les maris qui ont emporté par les tourbillons de l'histoire ou de la guerre, ou les aléas de la fatalité, des femmes qui n'ont eu d'autre choix que de reprendre le flambeau pour faire vivre, ici c'est une ferme, et leurs enfants. Deux portraits de femmes exemplaires. Il y a Anna et Louis, son mari, qui était le propriétaire de cette ferme et qui est parti à la guerre de 14, qui en est revenu, mais traumatisé par tout ce qu'il a vu. Ses copains morts, beaucoup de choses. Mais Anna saura se rapprocher de lui et le comprendre et l'aimer. Et Marie, née en 1912, leur fille, qui va traverser le XXe siècle jusqu'à échouer sur le rivage du suivant par arrêt de son cœur, qui avait quand même bien battu, pendant son 88e anniversaire, à 40 km de la ferme des Vieilles Granges, sur la commune des Herbiers, où elle a toujours vécu. Elle a eu une alerte, on l'a conduit à l'hôpital, et c'est là qu'elle est morte. Oui, c'est un magnifique roman que ce livre de Franck Bouys, Entre toutes, au pluriel, qui embrasse la mémoire de cette femme qui traversa le XXe siècle avec ces deux guerres et les conséquences de ces deux guerres, se faisant l'interprète des mots qu'elle ne prononça pas, pour raconter un parcours de labeur, d'amour. En particulier, Marie va vivre un grand amour avec Clément, l'homme de sa vie, et de dignité, il y a beaucoup de dignité. Il reprendra Clément la ferme, donc la ferme restera bien dans la famille, et de dignité, dont il sera l'héritier, c'est Franck Bouys qui sera l'héritier de toute cette ascendance. Franck Bouys livre avec une pudeur saisissante cette épopée familiale et prouve qu'il est aussi talentueux dans le récit de l'intime, la vie de ces gens, que dans la fresque romanesque, parce que c'est une fresque superbe romanesque, qui parle de tout, qui évoque tout ce qui s'est passé pendant cette douloureuse époque. Il manquera, dit-il, à tout jamais, un regard, une voix, une présence discrète qui traverse ces pages. Quelques heures fragiles couchées sur le papier, le temps de vous parler de Marie. Marie qui, malheureusement, enfin, il ne l'a pas vraiment connue, puisqu'il est venu un peu après sa mort. Donc, ce qu'il a fait, un très beau travail, une très belle adaptation de sa vie, de la vie de Marie. Et on écoute de la musique. Voilà, j'ai choisi une musique venue d'ailleurs, une musique des Lumières, un divertissement au violoncelle, fait par Joseph Marie Amos. Et puis le violoncelliste s'appelle Ajé Anana. Voilà, et on écoute. La Belle Musique, composée par des Français qui étaient partis en Chine, qui ont été accueillis là-bas, et donc vous avez entendu qu'il y avait une sonorité un peu chinoise dans cette musique, par Joseph-Marie Amos. Alors je vais parler aussi d'un autre roman. J'avais imaginé même une nouvelle enquête du commissaire Brunetti dans un roman intitulé « L'épreuve du feu » de Donna Leon, la grande américaine Donna Leon, parue chez Kalman Levy, qui était l'éditeur de Arthur Koestler. Mais même si c'est un bon roman, il ne cadre pas tout à fait avec le thème du souvenir, car elle met en scène des gangs d'adolescents qui sévissent dans les rues de Venise, se provoquent sur les réseaux sociaux, s'affrontent violemment en pleine rue et s'en prennent même aux membres de la questure, c'est-à-dire la police ou la gendarmerie de Venise. Il s'agit d'une actualité brûlante que l'on peut retrouver aussi, que l'on retrouve aussi parfois en France, voilà, dans certains quartiers. En revanche, je vous parlerai au premier regard de Lisa Garner, une nouveauté qui vient de paraître en livre de poche. Mais pour l'instant, avant, je présente un cinquième roman. Je vous parle d'un cinquième roman beaucoup plus romanesque que ceux que je vous ai présentés, intitulé « L'invité surprise » de Alison Espar aux éditions Charleston. Avec « L'invité surprise », Alison Espar signe un roman sensible et fascinant, à l'humour piquant, qui nous plonge dans la psyché d'une femme sur le fil du rasoir, et que j'ai aimé vraiment en me mettant à la place de la pauvre, l'héroïne de ce roman, Phoebe Stone. Larguée par son homme et divorcée depuis 2 ans, mais elle n'arrive toujours pas à s'en remettre. Oui, en arrivant à l'hôtel qu'ils avaient choisi, l'hôtel est exactement comme l'espérait Phoebe. Dressé au bord de la falaise, il semble l'attendre patiemment. Elle ne voit pas l'océan derrière l'édifice, mais elle sait qu'il est là, de la même façon qu'elle sentait la présence de son mari Matt, en train de taper son livre dans son bureau. Chaque fois qu'elle se garait devant la maison, qu'elle revenait à la maison. L'amour était un fil invisible qui les connectait en permanence, donc un grand sujet. Et cet hôtel victorien, le Cornwall Inn, Phoebe en a rêvé avec son mari, mais malheureusement, elle est seule quand elle descend du taxi sans bagage, dans la magnifique robe de soie vert émeraude qu'elle n'avait jamais osé porter, mais qu'elle a bien portée cette fois-ci. Et si elle a vécu sans éclat, elle mourra avec panache, parce que Phoebe a décidé de mourir, et elle mourra avec panache. Tout est prévu, de la promenade sur la plage, au coucher du soleil, au plateau de fruits de mer, ouais, en passant par la crème brûlée et la boîte de comprimés pour se supprimer. Tout est prévu, sauf un détail. Un détail très important. L'hôtel est entièrement réservé pour un mariage grandiose qui doit durer une semaine de festivités. Et la mariée, la future mariée, ne laissera personne gâcher son grand jour. Elle s'appelle Lila. Voilà l'intrigue de ce grand roman. De Alison Espar, l'invitée surprise. Car elle va rencontrer Phoebe, Lila va rencontrer Phoebe sur le pas de la porte de l'ascenseur. Grand roman de 478 pages tout de même. Et elle va se blesser même, et Phoebe donnera un mouchoir pour soigner un peu la blessure que Lila s'est faite avec la grille de l'ascenseur. Pour monter, parce que donc Phoebe veut monter à son petit coin de paradis, une suite qu'elle avait réservée avec balcon, vu non pas sur la mer, mais un grand balcon quand même. Et donc Lila l'interroge, parce qu'elle pense qu'elle est là pour le mariage. Quelle famille, celle de Gary, son fiancé. D'ailleurs, Phoebe fera la connaissance de Gary. Je vous laisse découvrir cette relation avec Gary. Non, elle est venue ici, dit Phoebe, pour se suicider. Non, non, affirme la mariée, qui veut tout organiser. Non, non, hors de question que vous vous suicidiez la semaine de mon mariage. Alors une fois dans la chambre, Phoebe va se mettre à songer à son ancien mari, à leur relation distendue, que je vous laisse découvrir bien sûr, car il y a Matt a fait la connaissance de Mia, une jeune femme charmante qui l'attire. Ils sont attirés d'ailleurs l'un et l'autre. Ils auront un enfant, chose que Phoebe et Matt n'avaient pas pu avoir. Car Phoebe est toute mélancolique. Alors Lila, qui aime se tourner vers les autres, revient voir Phoebe dans sa chambre. Car elle est toute mélancolique, elle est isolée par rapport aux convives invités au mariage. En plus, elle ne peut pas manger avec les convives, elle ne peut même pas avoir une salade avec des fruits de mer. Donc, se sent vraiment désespérée. Mais elles vont dialoguer et devenir amies. Et même Phoebe deviendra fille d'honneur à ce mariage. Dans ce récit, il y a de nombreuses péripéties que je vous invite à lire, à découvrir sans faute. Sachez que Alison Espar, l'auteur de ce roman, est professeur de creative writing à l'Université Providence, dans le Rhode Island. L'invité surprise est son premier roman traduit en français, véritable phénomène à l'étranger. Il a été élu meilleur roman en 2024. Là aussi, j'enchaîne avec un livre qui, pour moi, est un témoignage unique. Intitulé « Pauvre » de Catriona O'Sullivan, édité par Sabine Vespizer. Ça aussi, c'est un grand récit, un témoignage. Elle est troisième, c'est son témoignage, c'est sa vie elle-même qu'elle raconte, Catriona O'Sullivan. Troisième d'une fratrie de 5 enfants, élevée dans la plus grande précarité par des parents toxicomanes, Catriona O'Sullivan avait peu de chances de faire un jour des études et encore moins d'enseigner à l'université. Son extraordinaire parcours, oui, c'est bien extraordinaire parcours, elle le raconte sans fard dans ce livre qui, chemin faisant, révèle une écrivaine, car elle est devenue une écrivaine. Elle a écrit plusieurs choses, mais pas jusque ses souvenirs personnels. Malgré l'extrême pauvreté et le chaos ambiant, voir ses parents, ses frères, tout ça, boire beaucoup et se droguer, à 6 ans, arrivée dans sa chambre, au bon moment, elle sauve son père d'une overdose. Sa force de vie et son intelligence ont permis à la petite fille, puis à la jeune femme qu'elle est devenue, de s'émanciper, non sans peine, de sa condition. Se sortir de sa condition. La justesse du trait, la pudeur et la simplicité avec lesquelles la narratrice met en scène les épisodes les plus rudes de son roman des origines forcent l'admiration. Elle a su saisir les mains tendues de certains de ses enseignants, en particulier une institutrice qui lui apprend à se laver dans les toilettes de l'école. Oui, qu'elle ait fait pipi au lit ou pas, elle ne se lavait jamais. Donc quand elle venait à l'école, elle sentait mauvais, elle puait même. Pour les camarades, c'était insupportable. Donc, elle va apprendre à se laver dans les toilettes et à changer de culotte tous les jours. Mais c'est surtout au sixième sens qu'elle a développé, à force de vivre sur ses gardes, qu'elle doit de s'en être sortie. Elle avait rencontré un garçon une fois, elle se trouve enceinte à 15 ans, d'un garçon, qu'elle veut garder quand même, d'un fils qui sera appelé John. Alors ses parents ne veulent pas d'elle, ils la chassent, elle est chassée de chez eux. Mais le père, pour finir, quand il ira en Irlande retrouver son propre père, eh bien il emmènera John avec lui. Donc Catriona O'Sullivan, désormais devenue docteur en psychologie, n'a jamais oublié que c'est contre elle-même qu'elle a mené son plus rude combat. Parce qu'il y a des moments où elle voulait baisser les bras et se laisser faire avec ses frères. Contre le sentiment de trahir les siens en échappant à sa condition sous-prolétaire, puisqu'elle deviendra professeure. Son impression aujourd'hui encore d'être une intruse à Dublin, où elle finit par se retrouver, par vivre, par aller à l'université, son besoin d'être rassurée, ses atermoiements, elle nous les confie avec une bouleversante honnêteté. Catriona O'Sullivan est née à Coventry, dans le Royaume-Uni. Elle a été admise à l'âge de 20 ans, en 1998, au programme d'accès à Trinity College, le grand collège Trinity College de Dublin. Donc un programme d'accès, ce qui ne serait plus le cas aujourd'hui, parce que ceux qui finançaient ces programmes d'accès n'ont plus d'argent à dépenser. Donc, aujourd'hui, elle est devenue maîtresse de conférences au département de psychologie de l'université de Ménos. Elle travaille sur des projets d'éducation et d'inclusion parce qu'elle voudrait permettre à d'autres pauvres d'avoir un programme d'accès au collège, d'avoir une éducation et d'inclusion. Elle est mariée, un beau et bon mariage avec Dave, l'homme de sa vie qu'elle a trouvé et qui l'aide beaucoup. Ils ont 3 enfants. Elle vit à Dublin, donc en Irlande. J'aborde un 7e livre dont on parle beaucoup. Il s'agit de Surface de Olivier Norek. Il y a 2 versions. Il y a soit l'édition Michel Lafond, grand format, ou en presse pocket. Souvenez-vous que j'avais parlé de Olivier Norek et de son livre fabuleux, Les guerriers de l'hiver. Ici, Surface était paru avant, mais comme l'actualité en parle beaucoup, donc je l'ai lu maintenant. Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police qui s'appelle Noémie Chastain, qui est l'héroïne défigurée de ce roman qui restera dans nos mémoires. Norek se renouvelle encore et nous s'étonne toujours. C'est un grand roman que Surface, baigné d'une profonde humanité. L'intrigue est serrée, personnage complexe, sombre ambiance. Noémie avait été transportée lourdement handicapée à l'hôpital militaire Percy que nous connaissons. S'en suivit toute une convalescence d'un bon mois avec Melchior, le médecin compétent, compréhensif, un expert de ces êtres traumatisés. Parce que elle a un visage tout à fait déformé, un côté droit qui ne ressemble à rien, des piqûres, enfin des cicatrices ici ou là. C'est un être traumatisé. Et puis il y a Adriel qui est amoureux d'elle. Ils travaillent ensemble au stup avec Chloé aussi, un beau personnage qui sera fidèle à Noémie et Jonathan. Et donc comme elle est sur une voie de garage, Noémie, donc c'est Adriel qui deviendra le chef. Mais lorsqu'il viendra pour regarder le visage de Noémie, un côté tout abîmé, et puis sur son corps, les blessures abîmées d'un côté, plus celui qu'elle aimait, et il s'en alla vers d'autres horizons avec juste un baiser d'adieu. Alors pour Noémie, ce sera vraiment terrible. Non seulement elle avait du mal à s'accepter comme elle était devenue, mais elle était morte d'un coup de feu dans le studio de banlieue parce que elle comprend bien que Adriel ne veut plus d'elle. Donc elle a décidé aujourd'hui de s'appeler Noémie. La rue et le métro, lorsqu'elle doit sortir, lui font peur. La foule, elle quitte l'hôpital en taxi. Alors, au bastion de la police judiciaire, elle va retrouver et son commissaire et le directeur de la PJ. Comme ici, même dans la police, personne ne veut plus de cette capitaine de police blessée avec des blessures apparentes. Le faire mener une enquête, ça ne se fait pas. Alors ses supérieurs vont l'envoyer un peu sur une voie de garage et vont l'envoyer à Decazeville, dans l'Aveyron. Et là-bas, en pleine campagne, personne non plus ne veut de son enquête, car il y a un aura autour d'elle, hein, et donc on ne veut plus d'elle, même là-bas. Mais elle va quand même mener une nouvelle enquête menée par Nau, puisqu'elle s'appelle Nau maintenant, au mieux de ce qui sera, au mieux de sa forme. Et comme le dit un critique, Bruno Corti, dans le Figaro littéraire, c'est une nouvelle et belle réussite que ce roman Surface de Olivier Norek. À lire et à découvrir absolument. À la fin de cette aventure, Nau redeviendra Noémie et décide de rester à Decazeville parce que, pour finir, tout le monde va l'accueillir là, alors qu'à Paris, on ne veut pas d'elle, on n'a pas voulu d'elle. Alors j'ai encore un livre qui vient juste d'arriver, de sortir, en livre de poche. Alors j'ai été un peu surpris parce que c'est de Lisa Garner, et c'est vrai que j'aime bien Lisa Garner, dont je lis ses romans. Donc c'est un 8e roman, une nouveauté qui vient de paraître en livre de poche à 9,90 €, donc ne vous en privez pas. Au premier regard de Lisa Garner, il y a dans ce roman policier, c'est aussi un roman policier, une enquête policière, une macabre découverte dans une petite ville de Géorgie. C'est une Américaine de Géorgie. Les restes d'un corps humain, puis bientôt un charnier, révélé au grand jour. Est-ce le testament de Jacob Ness? Vous savez, Jacob Ness, c'est ce tueur en série qui a défrayé la chronique pendant des années avant d'être abattu et que Lisa Garner en a déjà parlé, ou l'œuvre d'un complice. Donc, aux côtés de la courageuse Flora Dan, la première enquêtrice que nous retrouvons, une survivante, enfermée dans une boîte de Jacob Ness, donc qui le connaissait bien, donc elle va pouvoir critiquer les éléments qu'on retrouve, devenue justicière, voilà. On retrouve à côté l'agent du FBI, Kimberly Quincy, deuxième personnage connu, et le commandant Dédé Varen. Ils vont unir leurs forces, et ce ne sera pas de trop, dans une affaire sans précédent, dont une jeune fille, témoin impuissant de l'horreur, détient la vérité. Mais comment la protéger? C'est elle aussi qu'il faudra protéger parce qu'elle connaît la vérité. Elle est traitée très proche de sa mère. Dans le prologue, on voit sa mère très proche de sa petite fille. La Chiquita, c'était de ma mère, c'était elle, cette petite enfant, qui écoute ce que dit ma mamita, mais un jour, malheureusement, un jour terrible, elle n'écoutera pas sa mère, ne s'enfuira pas comme elle aurait dû s'enfuir, et elle deviendra muette, et vous allez découvrir comment elle va devenir muette. Elle est, cette petite fille, elle est la nouvelle héroïne de Lisa Garner, car ce sera une héroïne. Les trois héroïnes fétiches sont à nouveau réunis, à savoir Flora Dan, Kimberly Quincy et Dédé Varenne, réunis dans un thriller à couper le souffle. Lisa Garner, Autopsie, avec un savoir-faire accompli, on peut le dire, les âmes noires comme le cœur des femmes à lire sans faute. Et je termine là-dessus, sur ces bons romans que je vous ai présentés. Et à bientôt, bonne lecture. Et à bientôt, si vous avez envie de revenir m'écouter au mois de novembre.